Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Prime Vert, l'émission qui mêle environnement et territoire sur Radio Primitive. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux routes. En préparant cette émission, je suis tombé sur une statistique assez étonnante. Est-ce que vous saviez qu'un Français ou une Française passe en moyenne plus de 3 ans de sa vie sur les routes ? Pour autant, combien d'entre nous sont vraiment capables de dire comment elles sont construites ? Eh bien aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair sur la fabrication des routes et malheureusement sur les nombreuses pollutions qui y sont associées. Pour ce faire, on va s'intéresser à deux luttes locales autour d'usines à enrober. L'une au nord-ouest de Reims, menée par l'association Air Environnement Grand Reims, l'autre à côté d'Épernay, dans la commune de Montelon, menée par le collectif du Marais. Alors pour commencer cette émission, il me semblait vraiment essentiel de commencer par comprendre comment sont fabriquées les routes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une route, c'est un petit peu une sorte de millefeuille dont la recette dépend du type de route que l'on souhaite faire. Alors évidemment, entre une autoroute par exemple ou une route communale, les recettes vont être totalement différentes, hein, puisque ces deux routes, elles ne vont pas devoir supporter les mêmes contraintes. De même, on peut demander à ce que la route elle ait des propriétés assez particulières. Par exemple, une route, ça peut plus ou moins absorber l'eau. De même, ça peut essayer un peu d'absorber les sons pour rendre le voisinage plus tranquille. Bon, à un coût bien sûr plus élevé. Bref, tout ça pour dire que la recette dépend vraiment du type de route. Tout ça, ça rend la création des routes et l'explication un peu de ce millefeuille encore plus compliquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va uniquement s'intéresser à la dernière couche, appelée enrobée. Cette enrobée, on peut aussi l'appeler couche de roulement, tout simplement parce que c'est sur cette couche-là que les différents véhicules vont venir rouler. Pour réaliser cet enrobé, il nous faut deux types d'ingrédients. Premièrement, des granulats. Alors ça peut être du sable, des graviers, des fileurs. Ça, c'est le nom qu'on donne aux granulats les plus fins. On peut même aller recycler d'anciennes routes. C'est une pratique qui se développe de plus en plus, comme on le verra avec mes invités. Dans ce cas-là, on parle alors de fraisas. Il est récolté en allant gratter d'anciennes routes qui sont en train d'être rénovées. Dans tous les cas, ces granulats, ils sont quasiment toujours obtenus grâce à un concasseur. C'est une énorme machine qui va venir, comme son nom l'indique, concasser les roches ou alors le fraisa pour lui donner le diamètre souhaité par l'industriel pour sa recette. Ce qu'il est important aussi de retenir, c'est que dès cette première étape, il y a tout un tas de dégradations à l'environnement qui sont commises. Que ce soit eh bien, dans les carrières pour aller chercher les différentes roches, ou alors avec le sable, hein, qui est la deuxième ressource la plus exploitée au monde, juste après l'eau. De même, le concasseur va émettre énormément de poussières qui vont participer à la pollution atmosphérique. Rien que tous ces sujets mériteraient vraiment une émission complète, donc on ne va pas pouvoir s'y attarder aujourd'hui, puisque nous, le sujet qui va nous intéresser, ça va être surtout le deuxième ingrédient de l'enrobé, c'est-à-dire le bitume. C'est un matériau dérivé du pétrole, c'est-à-dire composé d'hydrocarbures. Il va servir à lier les différents granulats entre eux pour former une pâte assez gluante. C'est cet élément qui est principalement responsable de la toxicité de l'enrobé, en particulier à cause des hydrocarbures aromatiques polycycliques, aussi nommés HAP, dont on va un petit peu reparler par la suite. Alors maintenant qu'on a réuni tous nos ingrédients, on n'a plus qu'à passer à la recette. Pour cela, je vous propose de suivre la recette donnée par Colas, qui est l'une des principales entreprises de production d'enrobé en France.
Les granulats sont d'abord transportés à l'aide d'un tapis convoyeur jusqu'à un tambour sécheur doté d'un brûleur. Ils sont chauffés à plus de 100 degrés pour en extraire l'humidité. C'est la phase de séchage. Ils sont ensuite acheminés jusqu'au sommet de la tour d'enrobage, où ils sont triés, puis stockés chauds, en attente de la seconde phase de fabrication, le malaxage. S'ajoutent les filaires et le bitume pour former l'enrobé, qui peut alors être acheminé par camion sur les chantiers et mis en œuvre avec des finisseurs.
Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube qui se nomme « Dans le secret de fabrication de nos enrobés » réalisée par Colas en 2016. Ces enrobés, ils sont utilisés pour construire des routes ou en rénover. On estime que chaque année, 20 à 30 000 km de routes sont entretenues et à peu près 4 000 sont créés ex nihilo et viennent s'ajouter aux déjà 1,12 million de kilomètres de routes qui existent déjà sur le territoire français. Rien que pour 2024, ces rénovations et constructions, elles ont nécessité une production de 32 millions de tonnes d'enrobés d'après le lobby du secteur. On compterait ainsi, toujours selon la même source, 466 usines à enrobés en France, et peut-être bientôt 467 avec la création d'une centrale à bitume par l'entreprise Kensel au nord-ouest de Reims. Pour parler de ce projet, on est avec Benoît Pantier, président de l'association Air Environnement Grand Reims. Alors bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, hein, qui s'inscrit d'ailleurs dans un projet beaucoup plus global. C'est pas seulement une usine à enrober, mais un projet bien plus global de BTP.
Alors c'est un complexe qui est déjà construit en partie, puisque l'entreprise a déjà construit le complexe, puisqu'en fait l'entreprise était domiciliée sur la commune de Saint-Brice-Courcelles et elle a déménagé donc sur Reims. Donc c'est sur la commune de Reims. On est à l'extrême ouest de la commune de Reims, un petit peu au nord-ouest de Reims. Et donc cette entreprise envisage, entre autres dans son projet, qui est un projet global, hein, puisque c'est une installation qui se fait sur 5 hectares de terrain, environ 5 hectares, elle a le souhait de construire, en plus des installations qu'elle pouvait avoir auparavant, une centrale à béton, une centrale à enrober, un concasseur, et puis un centre de tri des déchets du BTP. Le sujet qui nous interpelle, nous, en tant qu'association, c'est véritablement les installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire les ICPE, qui sont nombre de deux, qui sont et la centrale à enrober et le concasseur, qui, de par leur forte probabilité de nuisance pour la population et pour l'environnement sont classés, donc sont soumis à des directives très particulières du Code de l'environnement. Et dans le cadre donc du respect de ces directives, l'entreprise a fait l'entreprise dispose d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet de la Marne. Et c'est contre le préfet de la Marne que notre association est entrée en justice, parce que nous considérons que cette autorisation n'est pas légale.
Moi, ce qui m'a choqué aussi en allant sur place, c'est vraiment la proximité avec les habitations. On a vraiment des habitations à, je dirais, 500 mètres quoi, de cette future usine à enrober. Je crois, j'ai cru comprendre justement que c'était vraiment au cœur de vos griefs contre cette autorisation préfectorale de construction. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus, hein, parce que, pour rappel aussi, la réglementation permet en principe de construire dès lors que les habitations sont à plus de 100 mètres de la centrale.
Alors, il y a même plus proche. En fait, le sujet, c'est un des sujets que nous, on a remonté dans la procédure juridique. C'est qu'aujourd'hui, j'ai plus exactement la distance qui est mise dans le dossier de déclaration d'installation pour l'environnement, comme pour les études sanitaires qui ont été réalisées. Je dirais une bêtise et j'ai peur de me tromper, mais on est à peu près à 700 mètres, je crois, déclarés dans le dossier entre la centrale, enfin, le projet de centrale et les premières habitations. Sauf que c'est pas exactement vrai. Donc effectivement, on a le quartier de la Neuvillette qui est à 700 mètres et puis l'école primaire qui est à 900. Ça, c'est déjà une certitude. Donc on est déjà à moins d'un kilomètre de la centrale. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que les études sont biaisées puisque en fait, elles sont parties sur cette hypothèse-là. Sauf que immédiatement à côté de la centrale, on a un petit quartier avec des gens qui habitent là, sur les terrains tout à côté, qui sont placés à moins de 100 mètres et des gens qui habitent là depuis 25, 30 ans, 40 ans, je sais pas exactement, peut-être même plus, et qui n'ont pas l'intention de bouger d'ici. Alors c'est peut-être une occupation pas tout à fait légale parce que je suis pas sûr que les terrains, c'était peut-être pas des terrains constructibles au départ. Pour autant, les publics sont là, les enfants de ces personnes qui sont installées sont là, et ils sont à une distance totalement inadmissible d'un point de vue santé vis-à-vis des émanations qui là vont être beaucoup plus fortes, puisque là en fait ils vont respirer directement à moins de 100 mètres ou 200 mètres de la centrale. C'est comme si on était dedans, et ça nécessiterait les mêmes équipements de protection individuelle qu'ont les travailleurs pour travailler dans cette centrale. Or aujourd'hui, on sait très bien que ces gens, ce premier cercle de public très très proche n'aura pas ces équipements-là. Et puis pour les gens de la Neuvillette, 900 mètres, ça reste, enfin 700, entre 700 et 900 mètres, ça reste très proche. Et composés organiques volatiles, ils s'arrêteront pas comme ça. On sait très bien qu'ils seront émis jusque-là.
J'ai justement eu l'occasion assez récemment d'aller sur place pour essayer de constater l'avancement ou non d'ailleurs des travaux, puisque l'autorisation préfectorale, comme vous l'avez évoqué hein, déjà, elle a été donnée il y a déjà plus d'un an, le 12 juillet 2024. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, mais je me trouve juste à côté du siège social de Kensel, donc derrière le Leclerc Saint-Brice où doit se construire en principe la centrale enrobée. Pour l'instant, on a juste surtout le siège social de l'entreprise, donc c'est assez impressionnant en fait. On a un énorme, mini sort de mini lotissement quoi. En même temps, tout est pas totalement construit et tout, parce qu'on a encore beaucoup de préfabriqués. Et au final, la chose qui a vraiment lieu, c'est le centre de retraitement du BTP, où là, on a vraiment, on voit bien un peu, comme dans une décharge quoi, si vous y avez déjà été. Et puis c'est tout. Sinon, des énormes tas de gravats en fait, qui font vraiment la taille d'une maison. Et puis c'est tout. Autour de nous, on a surtout l'autoroute. Il y a pas mal de vent, comme vous pouvez l'entendre. Et puis, c'est à peu près tout. On a aussi quand même des habitations qui sont pas très loin, je dirais à 500 mètres. On a le stade Georges Herbert aussi, qui est pas hyper loin et tout. Suivant comment le vent pourrait aller, je pense que les sportifs pourraient être pas mal impactés. Et puis voilà, je me pousse parce qu'il y a un camion qui passe, en fait, qui est en train de rentrer dans le truc. Alors maintenant, j'ai fait le tour et je suis arrivé derrière, en fait... Il y a effectivement un camp de gens du voyage. Il n'y a pas eu de petites habitations un peu en préfabriqué, des poules, tout ça, c'est des barbecues. Mais bref, pour ça, pour dire qu'il y a vraiment des gens qui habitent à 100 mètres, quoi. Vraiment, si vous voulez, il y a la clôture de l'entreprise Kensel. Et juste derrière cette clôture, il y a tous ces gens-là, quoi, qui habitent juste là et qui vont être vraiment hyper impactés, quoi, par les fumées et tout. C'est vraiment impressionnant qu'on puisse faire un projet comme ça, si proche d'habitation. On voit vraiment un cas de racisme environnemental, quoi. On fait partir des personnes qui sont déjà précaires et tout ça en leur imposant des pollutions de cette sorte-là. Et c'est bien montré par William Acker, notamment, dans son livre « Où sont les gens du voyage ?» qui montre qu'en fait, les gens du voyage se situent tous quasiment à proximité d'endroits polluants comme ça, où ils ont été en fait relégués. Alors peut-être pour revenir justement sur les conséquences un peu plus globales pour les Rémois et Rémoises et même les habitants aux alentours, quelles seraient justement ces conséquences sur la santé de toutes ces personnes et peut-être sur l'environnement aussi?
Alors le gros sujet, c'est vraiment la centrale à enrober, puisque on est sur une installation classée pour l'environnement, comme je disais. L'enrober, c'est forcément des dérivés pétroliers. Et on sait que ce type d'installation est fortement nuisible pour l'environnement et puis pour la santé des riverains. Il y a des études, et puis il y a beaucoup d'études sur le sujet. Qui démontre des impacts dans des distances comprises jusqu'à 3 km autour de ce type d'installation. Donc là, forcément, on impacte tout Reims, y compris jusqu'au centre-ville, si on prend 3 km à vol d'oiseau. Puisqu'effectivement, en fait, le sujet, ce sont les composés organiques volatiles, et notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont connus et reconnus comme étant des agents cancérogènes. Et d'ailleurs, on sait que, malheureusement, les gens qui travaillent dans ce type de... qui travaillent sur le bitume, nécessite une surveillance médicale particulière vis-à-vis justement de cette exposition forte à des matières potentiellement pouvant créer des cancers. Donc c'est vraiment le sujet de préoccupation majeure, puisque en fait là on va avoir une installation qui a été autorisée pour une production jusqu'à 100 000 tonnes d'enrobés par an, ce qui en ferait une des plus grosses de la région. Alors ça c'est l'autorisation. Le pétitionnaire, c'est-à-dire la personne qui porte le projet, nous dit bien qu'il ne produira jamais autant de bitume. Pour autant, pour l'amortissement de la centrale et pour le fonctionnement au coût de la centrale, forcément, il a été autorisé par le préfet à produire 100 000 tonnes. On sait bien que dans 3-4 ans, même si les premières années, c'est 30 000 et puis ensuite 60 000, on arrivera à 80 000 puis 100 000 tonnes dans quelques années. Et donc, cette concentration très forte de bitume fait qu'on va avoir une émanation de composés organiques volatiles, comme leur nom l'indique, ils sont volatiles. On sait que les vents dominants dans l'hémisphère nord sont les vents d'ouest vers est. La centrale à enrober est placée au nord-ouest de Reims. La hausse des vents nous indique que, donc la réserve qu'on a récupérée auprès de Météo France nous indique qu'en fait tout va être poussé vers la ville, alors notamment quartier de la Neuvillette, le quartier d'Orgeval où nous sommes aujourd'hui, quartier Trois-Fontaines, et puis ensuite Clermarais, c'est, on continue, on arrive dans le rayon de 3 km, on arrive sur les promenades, hein, on est sur les promenades, on est sur presque la place d'Erlon déjà, donc en fait c'est vraiment un projet qui impacte Reims en grand. Sachant qu'on a quand même un point d'inquiétude majeur, c'est qu'à dire que on a un point sur des publics sensibles qui sont les enfants des écoles primaires et maternelles de la Neuvillette ou de Trois-Fontaines, qui eux sont dans des rayons compris entre 900 et 1,5 km à vol d'oiseau de la centrale.
Et au-delà justement juste des habitants, il y a aussi l'environnement à côté. On a le canal de l'Aisne à Marne qui passe très proche. On est assez entouré de champs aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de pollution, de déversement, on va dire, d'effluents dans ces lieux-là qui risquent de mettre en danger justement les écosystèmes aux alentours ?
Alors, on parlait justement de droit français. Et en droit français, pour des installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire des installations qui ont un risque d'impact sur l'environnement, il y a un système de déclaration-autorisation en préfecture, ce qui a été fait là. Mais le niveau, en fait, d'études, le niveau de consultation du public, etc., n'est pas la même en fonction du niveau d'impact environnemental. Et là, nous, ce qu'on a attaqué en justice, c'est aussi le fait que le fait d'avoir un projet qui est multi-projet, mais d'avoir demandé en ICPE que la partie centrale enrobée et concasseur, en fait, c'est une forme de fractionnement d'un projet beaucoup plus global et donc avec un impact pour l'environnement beaucoup plus important. Et donc, ce sujet-là, il est aussi important, c'est-à-dire que, étant donné l'étendue du projet, c'est 5 hectares, un centre de BTP complet avec du tri de déchets, avec du béton, de concasseur, de l'enrobé, pour nous, n'aurait pas dû tomber sous l'égide de la procédure qui a été retenue. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on attaque l'arrêté préfectoral. Pour nous, il y aurait dû avoir un dossier beaucoup plus important. Et notamment, concernant le public, on a eu une simple consultation publique qui a été faite avec, à mon sens, pas suffisamment de publicité, puisque finalement, il n'y a pas eu tant de répondants que ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant du projet. Sur ce type de projet, ce qu'on attend, c'est aussi une enquête publique et dans l'enquête publique aussi des études environnementales, puisque nous on a pu mettre en évidence effectivement, notamment on parlait, vous parlez des rejets et des effluents, on a pu mettre en évidence que au niveau de la zone du projet il y a un ruisseau qui va se jeter ensuite dans la Velle et que ce ruisseau est dans la zone immédiatement du périmètre immédiatement proche du projet de centrale enrobée. Donc le risque de pollution des eaux de la Velle est avéré. Le risque de pollution de la Znief, qui est une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de la vallée de la Velle, est avéré également. Et puis un impact aussi sur des projets environnement à haute valeur ajoutée qui sont déployés par le Grand Reims au niveau de la centrale d'épuration qui est tout à côté. Il y a un projet qui s'appelle Azurev au niveau de la centrale d'épuration du Grand Reims. Et ce projet vise à traiter les effluents de la ville de Reims de manière biologique dans un espace où en fait c'est la nature, la végétation, etc. qui permet de traiter les effluents de manière efficace. Or, ce type d'installation nécessitant un fort fonctionnement biologique des bassins de rétention, etc., va fortement être impacté par les composés organiques volatiles et d'avis d'experts pourrait ne plus fonctionner. Donc ce projet ultra vertueux porté par le Grand Reims, demain pourrait ne plus être en capacité de fonctionner du fait de la pollution de la proximité de la centrale.
Oui, parce que, enfin, faut rappeler, mais dans le droit français, du coup, une centrale enrobée, ça doit être à 100 mètres des habitations. Mais par exemple, je sais que dans le droit allemand, c'est beaucoup plus loin, on parle de kilomètres. Hein, Et donc, justement, on voit une grosse différence. Même, je crois que dans le droit allemand, il y a l'obligation d'avoir un encapotage de la centrale, donc pour limiter ses émissions. Donc, on voit bien quand même le droit français qui est plus, qui laisse plus de liberté, on va dire, aux porteurs de ce genre de projet.
Alors effectivement, le droit français autorise la centrale au-delà de 100 mètres des premières habitations. Alors là, on n'est pas tout à fait sur... Ça dépend quelle hypothèse on prend. Si on prend l'hypothèse d'habitation déclarée, enfin d'habitation, comment dire, d'habitation connue et déclarée par le porteur de projet, on est effectivement à 700 mètres. Si on prend des gens qui vivent en permanence, on a des gens qui vivent à permanence aujourd'hui à moins de 100 mètres du projet. Donc on est déjà pas bon par rapport au droit français aujourd'hui dans ce projet-là. Et c'est pour ça aussi que nous sommes partis en justice sur ce point-là. Pour ce qui est du droit français, on a aussi écrit au ministère de l'Environnement. Nous avons écrit au ministre et on a expliqué que, en fait, il y a un vide juridique, enfin, il n'y a pas un vide juridique, mais en tout cas, le droit français est beaucoup trop permissif par rapport à l'ensemble des études qui existent sur ce sujet-là et qui préconise plutôt 2 à 3 km en termes de distance de sécurité. Ce qui fait que, voilà, c'est pour ça que je dis que même les publics, y compris jusqu'à la place d'Arlon, sont exposés aux polluants. Et puis, l'autre sujet, c'est l'encapotage dont vous avez parlé, qui est effectivement repris comme obligation dans le droit allemand, et qui en fait, l'encapotage, là, il n'y a plus de risque, puisque là, effectivement, on met la centrale enrobée sous une cloche, entre guillemets, physiquement, et on brûle à très très haute température tous les polluants, et on les détruit, ce qui évite en fait que les polluants qui sont potentiellement cancérogènes ne partent dans l'atmosphère. Mais ça, c'est forcément un coût au moment de la construction, et puis un coût en exploitation, puisque en fait, pour détruire les composés organiques volatiles, la technique qui est utilisée, c'est de les monter à très haute température pour que justement, quand tout ce qui sort de la zone encapuchonnée, tout ce qui sort de cette zone-là, tout ce qui sort de la zone sous protection, n'est plus que du CO2 et de l'eau. Mais après, ça pose d'autres problèmes de réchauffement planétaire, etc. Voilà. Mais en tout cas, si on doit le faire, et si on veut protéger au moins la santé des populations, le fait de couvrir la centrale et d'avoir ces dispositions-là sont vraiment des dispositions protectrices qui existent dans d'autres droits, mais pas en droit français.
D'accord. Et justement, pour revenir à cette consultation publique, donc, qui est beaucoup moins lourde qu'une enquête publique, hein, est-ce que justement, en remontant tous ces griefs, est-ce que vous avez été plutôt écouté ou pas du tout, les promoteurs du projet sont restés sourds à tout ça, même la ville de Reims, qui au final, je sais qu'il y a une délibération du conseil municipal en faveur du projet, bon, qui contraste un peu justement avec les projets là, que vous venez d'évoquer, qui sont plus vertueux, on va dire. Est-ce qu'il y a eu justement un soutien des pouvoirs publics à votre cause et une remise en question de certaines parties du projet ou pas du tout ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vote dont vous parlez, ça a eu lieu bien avant la consultation publique, puisque les délibérations, enfin, c'était juste avant, cette délibération-là était juste avant la consultation publique. Et puis, la vente du terrain, puisque le terrain appartenait à la commune de Reims, toute la partie réorientation du plan local d'urbanisme, la partie, puisque pour pouvoir construire une activité industrielle sur le site, il fallait réorienter le plan local d'urbanisme, ce qui a nécessité effectivement des décisions de la part du conseil municipal de Reims. Cette décision de vendre le terrain et puis au final effectivement l'autorisation pour le Grand Reims d'autoriser l'exploitation de ce site avec une centrale enrobée, c'est faite de mémoire chronologiquement avant les avant la consultation publique, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête publique, c'est bien une consultation publique. La consultation publique, elle aura eu un effet positif, c'est sur la préfecture de la Marne, puisque c'est le préfet de la Marne qui délivre l'autorisation, d'exploiter l'installation. Et donc, grâce à la mobilisation des associations et grâce à la mobilisation des gens qui ont répondu à la consultation publique, je pense que la préfecture de la Marne a pu percevoir qu'il y avait une réelle contestation du projet et puis de réelles inquiétudes, parce qu'en fait, au-delà de la contestation du projet, c'est vraiment de l'inquiétude, et a tenté, alors peut-être maladroitement et insuffisamment en tout cas à notre goût, mais a tenté de répondre aux inquiétudes des habitants et des associations en impactant l'arrêté préfectoral d'autorisation avec des obligations remises au pétitionnaire, c'est-à-dire au porteur du projet. Donc le porteur de projet, dans l'autorisation, a l'obligation de réaliser des mesures de la pollution sur le site, autour du site, a des obligations de bâchage des camions qui rentrent et qui sortent du site. Enfin voilà, il y a plusieurs obligations qui sont reprises par rapport aux demandes qu'avait fait le public. Et donc toutes ces obligations qui sont reprises dans l'arrêté préfectoral s'opposent, enfin sont là pour rassurer les populations, mais elles le font de manière incomplète puisque on trouve que les mesures sont pas assez loin, sont pas allées assez loin par rapport aux risques. Que représente la centrale et au risque pour la santé. Et puis, il y a le sujet que l'ensemble des mesures sont remises à la charge de l'entreprise et pas à la DREAL en termes d'organisme contrôleur. Donc, c'est l'entreprise qui, elle-même, alors, prend des entreprises indépendantes, mais voilà, c'est elle qui finance une entreprise indépendante qui va faire les analyses. Donc, même si, pour l'entreprise, je trouve ça même dommage parce que, quelque part, la manière dont c'est fait, amène un soupçon, même si l'entreprise est de bonne foi et veut être de bonne foi et réaliser les mesures par un prestataire indépendant, le fait que c'est elle qui paye les analyses, tout de suite, ça amène des soupçons et c'est malsain pour l'entreprise. Et puis nous, ça nous rassure pas parce que voilà, on se dit il y a quand même un risque que voilà que ça soit pas fait dans les règles de l'art ou que y ait baisse de l'activité le jour où on va faire les prélèvements ou voilà. Ça peut rester tendancieux et les mesures prises ne vont pas forcément dans le sens de rassurer la population.
Justement, ce problème d'autosurveillance, il est assez majeur à la DRIL ou à la DDPP, qui sont des organes liés à la préfecture et qui doivent justement contrôler ces installations. On n'a pas assez de personnel en fait pour mener les contrôles un peu de manière aléatoire, même si c'est fait de temps en temps. Qui plus est, ces mesures, elles sont souvent faites, en fait, physiquement qu'au niveau de la cheminée et pas aux alentours des habitations, ce qui veut dire qu'en fait, les retombées de pollution sont surtout faites par des simulations d'ordinateurs qui peuvent donner des résultats vraiment très différents de ce qu'on va voir dans la réalité. C'est ce que montre notamment Sarah Oultaf dans un documentaire intitulé « Bitume, la part d'ombre » qui devait être diffusé en 2015 dans le complément de l'enquête et qui illustre bien ce problème. Alors même si on est 10 ans après la diffusion, les procédés restent toujours d'actualité. On est à Le Crès, près de Montpellier, et la réalisation de mesures près des habitations a donné des résultats bien différents de ce que proposaient les simulations du bureau d'études qui a été payé par le promoteur du projet.
On s'est aperçu que dans ces gros dossiers qui font des centaines de pages, il y a des erreurs de règles de 3, des choses aussi bêtes que ça. Il y avait une erreur de calcul grossière à la 3e page.
Alors ça pose beaucoup de questions sur l'efficacité du logiciel, évidemment.
Après plusieurs manifestations de riverains, le préfet demande à l'industriel de nouvelles mesures. Cette fois-ci concrète, sans logiciel, mais avec des capteurs d'air, comme ceux-ci, installés dans les zones habitées autour de l'usine, sur les toits des immeubles.
Et là, la surprise a été énorme. Ce capteur-là a enregistré des concentrations en naphtalène, donc un des composés des HAP, qui sont 700 fois plus importantes que ce que prédisait le logiciel. Et c'est valable aussi pour d'autres composés organiques volatiles, le benzène, qui avait des taux de 600 fois. On a même eu des produits toxiques qui avaient des valeurs jusqu'à 1000 fois supérieures à ce que prédisait le logiciel.
Le verdict des capteurs est sans appel. L'usine pollue.
On a quand même l'impression un peu d'une recrudescence de ce genre de projet. Là, on parle du projet à Reims. Un peu plus tard, on évoquera aussi le projet à Montlon, à côté d'Épernay. Mais on a aussi Ville sous la Ferté, dès 2018, dans l'Aube, où le projet a finalement été annulé par la justice administrative. On peut aussi citer, alors c'est certes un petit peu plus loin, mais Guise, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, dans l'Aisne, où la centrale a dû fermer en 2024 à cause d'une décision de justice, seulement quelques mois après son ouverture. Donc, qu'est-ce qui explique justement cette recrudescence de projets ?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ultra lucratif comme activité, puisque suite à des dispositions légales, parce que nos députés savent aussi prendre des lois qui vont dans le sens de la réindustrialisation de la France, de manière légale aujourd'hui, depuis 2020, la quantité d'enrobés qu'on pouvait réinjecter dans les nouvelles enrobées, a augmenté. C'est-à-dire que, sous couvert d'une soi-disant vertu environnementale, c'est-à-dire de recyclage d'anciennes enrobées, on vient donner une énorme possibilité de faire de la marge sur ces activités-là, à savoir qu'aujourd'hui, avant 2020, je crois que c'était moins de 20%
d'enrobée ancienne qu'on pouvait réintégrer dans l'enrobée nouvelle. C'est-à-dire, je m'explique, une ancienne route, on venait la gratter, on enlevait l'ancienne route, donc il y avait un fraisat, et on avait le droit de remettre que 20% de ce qu'on avait enlevé de l'ancienne route pour recréer de la nouvelle enrobée. Mais petit à petit, on a eu le droit de mettre 20%, 40%, 60%. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industriel, il peut aller gratter une ancienne route, récupérer tous les fraisats de l'ancienne route dans lequel on mettait des choses. Enfin, on parle des routes qui ont été construites dans les années 50. Hein, donc, en termes de produits qu'on mettait dans les routes dans les années 50, voilà, j'imagine qu'on mettait pas des produits aussi tant contrôlés que maintenant, même si encore aujourd'hui les produits sont nocifs. Et on va recréer une nouvelle enrobée. Donc, en fait, en termes de matières premières, on paye beaucoup moins de matières premières pour créer une matière secondaire qu'on vend au même prix que la matière qu'on la vendait il y a quelques années. Donc, la marge pour un industriel qui veut se lancer dans cette activité-là, elles sont vraiment très intéressantes. Et c'est pour ça que les produits, enfin, c'est pas innocent que les projets se démultiplient sur l'ensemble de la France et qu'on en retrouve partout sur la France de ce type de projet et qu'on voit du coup les gens qui sont impactés par ces centrales bien du coup se soulever vis-à-vis de ces projets.
C'est vrai qu'effectivement on a en moyenne 25% d'enrobés recyclés dans un enrobé neuf. Ce chiffre d'ailleurs sert beaucoup la stratégie marketing du secteur hein, face à un bitume qui est quand même vu plutôt à raison comme très polluant. Or, justement, les anciennes centrales, elles n'ont pas la capacité technique d'utiliser autant d'enrobés recyclés. C'est pour ça que les industriels du secteur sont obligés d'en créer des nouvelles ou de rénover les anciennes assez lourdement. Donc c'est ce qui pourrait expliquer cette recrudescence d'usines à enrobés, même si, selon le lobby du secteur, le nombre d'usines reste stable. Donc on peut penser que en parallèle de ces nouvelles usines qui se construisent, d'autres ferment. Jusqu'à présent, on a beaucoup évoqué la toxicité pour les humains, qui concerne à la fois les riverains, mais aussi les travailleurs hein, du domaine du bitume, qu'il ne faut pas oublier et qui seraient, selon un certain nombre d'études quand même, plus exposés au risque de cancer. Mais il y a aussi une pollution olfactive et visuelle qui risque de venir perturber assez lourdement la vie des riverains, comme c'était le cas à Guise, dans un reportage de France 3 que je vous laisse écouter.
On nous a dit qu'on n'aurait pas de nuisance, pas d'odeur, pas de bruit, rien du tout. Et aujourd'hui, je pense que ça dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Quoi.
Ici, la centrale d'enrobage, bien plus petite que celle prévue à Reims, a vu le jour il y a un an et demi. Et les riverains sont vent debout.
Ah, c'est un véritable calvaire. Dès que les vents tournent et que ça tourne, les fumées partent vers la maison, que j'ouvre la porte, que je sors l'inhalation avant de partir travailler, je peux vous assurer que ça monte à la gorge, ça pique. D'entrée de jeu, ça me donne envie de vomir. Je vomis d'ailleurs. Et regardez, la semaine dernière, c'est ce que j'ai encore fait. Et du coup, ça me casse la voix. Et c'est chronique, ça devient régulièrement.
Des nuisances 5 jours par semaine qu'ils ont fait constater par un huissier avec une conclusion sans appel.
J'ai également senti une forte odeur nauséabonde caractéristique de l'odeur du goudron. Cette odeur vous piconnez.
Pour revenir à la centrale qui nous intéresse sur Reims, de ce que j'ai compris, il y aurait aussi quelques problèmes pour la circulation, c'est bien ça ?
Parce que là, je n'ai plus les chiffres, je les avais à une époque par cœur, mais je crois que c'est 80 poids lourds jour par sens. C'est-à-dire 160 en fait. Et ces 80 poids lourds, étant donné le site où la centrale va se situer, c'est le boulevard des Tondeurs.
C'est un boulevard qui est déjà bien engagé le matin et en soirée, donc on voit mal comment autant de camions ne pourraient pas impacter la vie des habitants et des habitantes. Alors on peut peut-être revenir un peu en arrière pour évoquer votre association, notamment sa création, et puis savoir si les habitants sont plutôt réceptifs à vos arguments. On a quand même un peu l'impression parfois que tout le monde n'est pas bien au courant sur Reims de cette centrale à enrobée qui va se construire.
L'association, elle existe suite à ce projet. Elle a été créée le 29 juillet 2023. Donc elle est assez récente. Pour ce qui est de la communication auprès des personnes, ça dépend vraiment des gens et de leur sensibilité. On a beaucoup de gens qui comprennent et aujourd'hui nos 190 adhérents, je pense qu'ils sont convaincus des risques qu'il peut y avoir vis-à-vis de ce projet. Après il y a des gens qui aujourd'hui ne comprennent pas, mais en fait il y a beaucoup de gens qui tant qu'ils ne voient pas qui vont pas voir, sentir, vont peut-être pas se rendre compte, mais le problème, c'est que le jour où on sentira les odeurs de bitume, et les jours où on sera, où nos rosiers vont commencer à jaunir, et puis qu'on va sentir les odeurs de bitume, et qu'on pourra plus manger nos salades dans notre jardin, il sera trop tard. Mais là, effectivement, ce jour-là, je pense qu'on aura beaucoup plus de monde dans l'association, mais malheureusement, on aura beaucoup moins aussi de leviers d'action pour éviter l'implantation de ce site industriel. Aujourd'hui, c'est vraiment très aléatoire au niveau des personnes qui... Je comprends qu'on peut être réticent et pas forcément... Parce que c'est difficile de se projeter dans l'avenir et de se projeter avec ce projet. On se dit aussi qu'un projet industriel, ça peut être bon aussi pour la santé économique d'une région, etc. Je contredis pas. Par contre, faire des projets industriels, oui, mais pas à n'importe quel prix et surtout en étant très, très vigilant par rapport à la santé des populations environnantes.
C'est vrai que depuis qu'on a déposé le recours, donc fin d'année 2024, on fait beaucoup moins d'actions fortement publiques avec manifestations ou autres. Par contre, il y a tout un travail de fourmi qui est un travail de l'ombre, mais qui est un travail nécessaire et qui est un travail qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, mais qui est le travail d'étudier le dossier et puis d'être très sérieux dans ce qu'on fait, parce que le but, c'est vraiment d'être sérieux et d'être le plus légal possible et le plus touché au texte de loi. Depuis le milieu de l'année, on est aussi assisté dans ce travail par une avocate. On travaille vraiment sur le sujet de manière studieuse et très rigoureuse pour expliquer que on ne comprend pas la décision de la préfecture et c'est pour ça qu'on a déposé donc ce recours. Et puis, on a fait cette réponse au recours et depuis, c'est dans les mains du tribunal administratif de Chalon. Alors, tribunal qui malheureusement est débordé. On a vu encore des articles dans la presse récemment, ce qui explique que la décision met du temps à être prise puisque les magistrats ont énormément de travail et que le tribunal est un peu engorgé. Donc, ça explique les délais très longs pour avoir réponse à nos échanges de mémoire.
Alors, vous n'avez pas de date d'audience encore
Aucune. Pour l'instant, on n'a pas de date. Ça, c'est vrai. C'est vraiment le sujet. C'est le sujet un peu compliqué puisque aujourd'hui, on ne sait pas dire quand on aura une date et c'est quand est-ce qu'on aura au moins une réponse sur ces sujets-là. Puisqu'aujourd'hui, on est dans l'attente d'avoir une date pour que ce jugement soit rendu et qu'on sache si l'autorisation préfectorale est maintenue ou est annulée par décision de justice.
Okay. Justement, il n'y a pas la volonté, en attendant cette décision de justice, d'essayer un peu peut-être de faire monter la pression, on va dire, par des manifestations ou autres, parce que je sais qu'à Épernay, justement, il y a eu ce cas-là un peu similaire avec une centrale à bitume, au final, qui n'a jamais vu le jour. Alors, le reste du complexe BTP a vu le jour, mais pas la centrale à bitume, suite justement à la mobilisation des citoyens et citoyennes de la ville.
Alors sur Épernay, ce n'est pas la même situation, puisque sur Épernay, l'autorisation préfectorale n'avait pas été donnée. La pression médiatique, elle a de l'importance quand les pouvoirs publics ont encore la main. C'est-à-dire quand les choses ne sont pas décidées, que les mairies n'ont pas encore donné leurs accords, que là, on peut influencer la pression publique. Faire pression sur le politique, c'est normal et c'est de bonne foi, puisque ça permet de changer la décision et c'est ce qui s'est passé sur Épernay. Nous, on est beaucoup plus avancé que ça dans le dossier, puisque là, quelque part, les politiques ont pris la décision de valider le projet. Le préfet a validé avec réserve. Alors réserve qu'on trouve bien insuffisante, mais le préfet a validé avec réserve du fait de nos remontées le projet. Maintenant, le seul recours, c'est la justice. C'est la justice, elle est indépendante et la justice n'est pas sensible à la pression publique. Et de toute façon, c'est hors de question de faire pression sur la justice. La justice, au contraire, c'est important qu'elle puisse délibérer en toute sérénité et qu'elle puisse délibérer suivant sa propre, de manière rigoureuse, suivant les textes de loi. Une fois que la décision de justice sera rendue, on verra, puisque là, ça peut aussi, si on peut influencer d'une autre manière, il y aura peut-être d'autres interventions, mais on n'est pas encore là du tout. Sachant que cette manière de faire a permis dans l'Aube, il y avait un projet de centrale à enrober pour lequel préfet de l'Aube avait autorisé par arrêté préfectoral l'exploitation de cette centrale enrobée. Donc, c'est les Amis de la Vallée de Clairvaux, si je ne dis pas de bêtises. C'est cette association qui était moins riche que la nôtre en termes de nombre de personnes. Qui était un peu moins étoffé, s'est battu devant la justice et devant le tribunal administratif de Châlons, puisque c'était le tribunal administratif de Châlons qui a aussi jugé cette affaire. Et sur cette centrale enrobée, donc dans l'Aube, le tribunal administratif de Châlons a prononcé une décision de justice qui indiquait que l'arrêté préfectoral devait être annulé puisqu'il n'était pas, il ne correspondait pas à la légalité. Donc voilà, il y a déjà des antécédents, y compris dans notre région, y compris jugés par le tribunal administratif de Châlons, qui ont conclu à ce que une autorisation préfectorale d'exploiter une centrale enrobée n'était pas légale parce qu'elle n'avait pas tous les éléments légaux qu'elle devait avoir.
Alors pour conclure cette interview avec vous, je voulais quand même revenir sur un point qui est assez symbolique autour de cette centrale. Puisque les éléments toxiques du bitume, comme on l'a déjà répété maintes fois, s'attaquent à l'ADN et aux protéines des humains, mais aussi des végétaux, hein, puisqu'on est fait des mêmes molécules. Il pourrait aussi, donc, on peut le penser, causer des dommages aux espèces animales et végétales alentour. Or, non loin de là se trouvent des vignes, donc est-ce que cette usine pourrait mettre en danger la production de raisins et donc, in fine, le champagne, qui est quand même un peu notre patrimoine local?
Autour de l'usine, on a quand même tout le massif Saint-Thierry et il y a eu des études de fait, là aussi encore une fois controversées si vous voulez, ok, je prends le fait qu'elle puisse être controversée, pour autant il y a des études qui alertent en disant attention sur les vignes, bah forcément c'est des êtres vivants donc ils ont de l'ADN, donc l'ADN il va être altéré par les produits composés organiques et benzène, et attention sur les vignes, on a eu dans le Chablisien des études qui ont été faites vis-à-vis d'un projet de centrale enrobée dans le Chablisien où on nous dit attention sur les vignes, ce produit-là est extrêmement nocif et peut conduire à la mort de cultures de vignes.
Justement, c'est vrai que quand on pense, un des arguments principaux de cette centrale aussi, c'est de parler des emplois créés. On serait à 2-3 emplois créés par rapport au nombre d'emplois qui sont générés par le champagne. Ça paraît assez aberrant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Pagnotier. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver plus d'informations sur la centrale à bitume en cherchant r-environnement-grand-reims.fr dans votre barre de recherche. On va continuer à parler justement de la vigne, car c'est elle qui a permis une grande avancée du côté de Montelon vers Épernay. On reçoit Arthur du collectif du Marais qui s'est opposé à la construction de la centrale à bitume sur place. Bonjour Arthur, merci d'être avec nous. Pour commencer, hein, est-ce que tu peux revenir sur le projet, sa chronologie, qu'est-ce qui était prévu de construire à Montelon justement ?
Donc c'est un site qui est à l'origine situé sur un ancien marais, d'où le nom du collectif. Et ce marais, il a été asséché par une ancienne entreprise qui était là avant. Et l'entreprise a cédé le terrain donc à l'entreprise actuelle qui est celle de l'écopôle de Champagne. Il faut savoir que historiquement, ce terrain n'était pas considéré comme une zone industrielle. Et en fait, suite aux installations qui s'y sont faites illégalement, la mairie a décidé de régulariser et de le passer en zone industrielle plutôt que de faire partir de démonter les infrastructures. Et donc, en 2023, on a appris que l'entreprise de l'écopôle de Champagne avait déposé un dossier pour agrandir son site, qui était à l'origine un site qui servait simplement à entreposer des tas de gravats. Et là, l'objectif, c'était de passer à une centrale à bitume, une centrale à béton, une plateforme donc de tri et de concassage de déchets et de stockage de déchets verts. Donc, c'était vraiment passer à un truc énorme, et donc suite à ça un collectif s'est créé avec une pétition qui avait été lancée par une riveraine qui habite à 70 mètres du site, et donc un collectif s'est créé autour de ça pour porter les revendications à l'origine contre la centrale à bitume et ensuite contre le site tout entier.
Est-ce que maintenant tu peux évoquer un peu la lutte, comment elle s'est déroulée, comment vous êtes organisé pour obtenir cette victoire qui est quand même assez inédite, d'autant plus que les autres cas qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, que ce soit à Guise ou à Ville-sous-la-Ferté, peut-être bientôt Reims, on ne sait pas, ce sont des victoires en fait juridiques. C'est le tribunal administratif qui a fini par annuler et à interdire en fait l'exploitation de ces centrales à enrobées. Or là, dans votre cas, au final, c'est juste la mobilisation populaire qui a fait renoncer le promoteur du projet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et quels ont été, on va dire, les éléments qui ont permis votre victoire?
Donc on a fonctionné en collectif de manière totalement horizontale, etc. On avait une boucle WhatsApp qui était sous-divisée avec un groupe pour chaque village, ce qui permettait aux gens de chaque village de s'organiser entre eux. Et donc il y a eu des actions, notamment faites par des vignerons dans le village de Cramant à côté, qui ont affiché des pancartes contre l'écopôle dans toutes leurs vignes le long de la route, ce qui a permis... De visibiliser le sujet, et ensuite on a réussi à pouvoir toucher la presse, etc. Et on a appris que des élus s'étaient mobilisés aussi contre ce sujet, puisque il ne faisait absolument pas consensus. Et donc là, on a ensuite tenté de mettre au maximum la pression pour que le vote qui devait avoir lieu en conseil d'agglomération soit défavorable à cette centrale. Et donc à ce sujet, on a organisé pas mal de collages, etc. On a contacté les élus, on a expliqué nos positions, etc. Et le jour du conseil, on s'est rendu dans la salle et on a vraiment mis la pression, puisque le président du conseil d'agglomération d'Épernay, qui est aussi président de la région, Franck Leroy, refusait qu'il y ait un vote. Il partait du principe que c'était pas les prérogatives du conseil, et ce qui était pas l'avis de la préfecture. Et donc on lui a mis la pression au maximum pour que le vote puisse avoir lieu, et au final il y a eu un vote à l'unanimité défavorable à cette centrale. Ce qui était très positif. Et donc suite à ça, on a pu arriver à avoir un rendez-vous avec le sous-préfet d'Épernay pour exposer nos revendications. On a organisé aussi des réunions publiques où on a fait venir des experts qui connaissaient le fonctionnement des centrales à bitume pour expliquer comment ça fonctionnait, quels étaient les enjeux, etc. Et enfin, après ce rendez-vous avec le sous-préfet, on a appris que le porteur de projet avait retiré de son dossier la centrale à bitume, mais c'était pas fait avec gentillesse, quoi. C'était la suite de notre mobilisation, c'était les conséquences de notre mobilisation. Et là, actuellement, donc, il y a toujours la centrale à béton qu'il a construite illégalement et qu'ensuite la préfecture a décidé de régulariser, à laquelle on continue à s'opposer. Là, on va faire pas mal de réunions publiques, etc. Et on attend qu'il fasse un petit peu plus beau pour pouvoir organiser des actions sur le terrain.
Alors, il y a quand même un volet juridique qui reste, parce qu'il me semble qu'il y a un recours qui a été déposé contre la centrale à béton, qui reste toujours d'actualité, il me semble.
Il y a un recours qui est en cours, qui est porté par donc une riveraine, qui est soutenue par le collectif. Néanmoins, on a bien conscience des délais en fait de la justice, qui rendent tout simplement impossible d'obtenir victoire sans se mobiliser en parallèle sur le terrain, puisque en fait le recours n'a toujours pas de date, alors que ça fait déjà plus d'un an qu'il a été déposé. Donc à un moment, en fait, l'exploitation de la centrale, elle continue, les dégâts environnementaux, ils continuent à être présents, et ils le sont de plus en plus. Et par ailleurs, la contestation, elle augmente, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui sont défavorables au projet. Donc à un moment, nous, on dit, il est temps de s'organiser sur le terrain, de porter des actions collectivement. Et effectivement, la justice prendra le temps de faire ce dont elle a besoin de faire, mais on ne peut pas attendre la décision de justice pour montrer notre opposition.
Est-ce que tu peux aussi évoquer peut-être les conséquences qu'aurait eu cette centrale sur la santé des habitants autour, et puis peut-être l'environnement surtout, parce que on est dans le vignoble autour d'Épernay, on produit quand même pas mal de raisins pour le champagne. Est-ce que ça a eu un impact sur votre lutte aussi, cet aspect-là?
Là-dessus, on avait beaucoup de revendications, notamment le fait qu'il y avait un hôpital qui était à moins de 3 km, donc assez dangereux au niveau de la centrale à bitume, puisqu'elle émet un certain nombre de particules qui polluent l'air et qui sont hautement cancérigènes, hein. Ça, c'est officiel, hein. c'est des organisations officielles de santé qui le disent, que c'est cancérigène, ça peut déclencher des leucémies, notamment chez les enfants, donc ce qui est quand même très dangereux, avec un hôpital à 3 km, une école à pareil 3 km, donc il y avait vraiment ce levier. Et puis à côté, il y avait les vignes, et on a pas mal joué là-dessus aussi pour pousser les vignerons à se mobiliser. On a expliqué qu'en fait, s'il y a des particules de béton dans l'air, au moment où la grappe de raisin se forme, elle va emprisonner ces particules de bitume. Et en fait, ça n'enchantait personne d'avoir du champagne au bitume. Et puisque au cœur du champagne, de la région du champagne, il y avait ce truc-là, on a réellement réussi à faire se bouger les vignerons. C'était vraiment quelque chose qui a boosté la lutte. Et par ailleurs, au niveau de l'environnement, bah il y a ces particules de bitume qui polluent énormément, donc la végétation alentour. Et puis il y a quand même un cours d'eau qui est à quelques dizaines de mètres hein, du site, petit cours d'eau qui est déjà en difficulté. Donc c'était vraiment un gros axe de mobilisation et une grosse revendication de défendre ce cours d'eau qui est vraiment juste à côté. Enfin, c'était un peu terrifiant de se dire que juste il allait emprisonner du bitume et des rejets de la centrale, quoi.
Merci beaucoup, Arthur, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bon courage pour la suite de la lutte avec le collectif du Marais. Chers auditeurs, chères auditrices, il est maintenant le temps de nous quitter. On espère que cette émission vous a permis d'en apprendre plus sur les routes, sur leur fabrication, mais aussi sur les luttes locales qui se fédèrent pour essayer de lutter contre ces centrales à bitume qui pullulent un petit peu partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Prime Vert.